France Culture.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Entendez-vous l'écho, une émission exceptionnellement en deux parties. Aujourd'hui, la première en forme d'hommage à l'économiste Michel Aglietta, dont nous avons appris le décès cette semaine. Et dans la seconde, en ce 1er mai, nous dresserons le portrait de Jean-Baptiste Gaudin, utopiste du 19e siècle et penseur d'une certaine relation au travail. Une émission préparée par Paul Weinarter et programmée par Bruno Barada, réalisée par Cassandre Puel et Noé Mignard. Et à la technique aujourd'hui, c'est Dalia. Qu'est-ce que la rationalité en économie? Le capitalisme fin de siècle a-t-il ses chances? La finance a-t-elle confisqué la monnaie? La crise monétaire est-elle une conséquence de la crise politique ou l'inverse? Le long terme en économie existe-t-il encore face à la crise? Toutes ces questions ont un point en commun. Elles ont toutes été posées à Michel Aglietta lors de nombreuses émissions de radio auxquelles il a participé, et fortiori ici à France Culture. Et surtout, Michel Aglietta avait la réponse. Seulement, Michel Aglietta nous a quittés il y a une semaine, le jeudi 24 avril 2025, à l'âge de 87 ans. Il laisse derrière lui de très nombreux ouvrages. Du premier, Régulation et crise du capitalisme en 1976, il a alors 38 ans, au plus récent, Pour une écologie politique au-delà du capitalocène, paru l'année dernière. Derrière lui aussi, des générations d'économistes passées par son enseignement, des élèves souvent devenus maîtres à leur tour dans l'esprit de transmission qui était le sien, cofondateur de la théorie de la régulation, défenseur d'une discipline ouverte sur les autres, fin observateur des évolutions du capitalisme, théoricien de la monnaie, Michel Aglietta laisse ainsi un héritage théorique, pratique, politique aussi, mais surtout un peu moins de questions sans réponse.
D'abord, j'ai toujours fait de l'économie politique. Et non, je ne crois pas du tout aux théories de l'économie pure, c'est-à-dire une théorie suivant laquelle les individus sont des monades qui connaissent tous leurs désirs et ne sont liés que par des marchés. N'oubliez pas la phrase de Margaret Thatcher, la société n'existe pas, il n'existe que des individus et des marchés. Ben, je n'y crois évidemment absolument pas, et ce qui s'est passé dans les 30 dernières années nous le montre. Si vous voulez. Les crises financières montrent que la finance ne peut pas réguler dans le temps les marchés. Et donc, le politique joue le rôle d'orientation, de boussole, absolument indispensable. Et deuxièmement, les individus ne sont pas que des agents économiques, ils sont des citoyens. Et l'appartenance au collectif est quelque chose d'essentiel. Et par conséquent, l'appartenance collective implique, au niveau où elle est, une puissance publique qui décide finalement à la fois des grands éléments de la cohésion sociale et de l'orientation qu'on peut lui donner dans le temps.
Natacha Valla et Laurent Cialhomme, bonjour et bienvenue à toutes les deux.
Bonjour.
Merci infiniment d'avoir accepté de rendre cet hommage radiophonique à Michel Aglietta et d'évoquer cette figure fondamentale de l'économie française, une voix dont on entendait à l'instant un extrait dans la grande table de France Culture. C'était en 2017. Laurent Cialhomme, vous êtes professeur à l'université Paris-Nanterre. Un premier mot, peut-être pour vous situer, quand avez-vous entendu parler de celui qui est devenu votre directeur de thèse pour la première fois et quel type de rapport entreteniez-vous avec lui ?
Bien écoutez, j'ai fait un bac scientifique et je me destinais normalement à, enfin je devais faire maths sup bio et puis au dernier moment j'ai décidé de faire de l'histoire. Et c'est un de mes professeurs à Jussieu, puisque je faisais de l'histoire à Jussieu, qui m'a fait lire Régulation et crise du capitalisme. Et je suis tombée en fascination intellectuelle pour cet ouvrage. C'était les années 80, il y a eu à ce moment-là également La violence de la monnaie qui est paru co-écrit avec André Orléans, et j'ai demandé à Benjamin Coria où enseigne ce garçon, et il m'a dit il vient d'aller d'Amiens à Nanterre, et j'ai recommencé toutes mes études en parallèle avec Sciences Po et Histoire, toutes mes études d'économie pour travailler avec lui spécifiquement. Il y avait eu La violence de la monnaie, donc j'ai travaillé sur des questions monétaires, mais moi ce qui me fascinait, c'était sa manière de dévoiler, au sens plein du terme, lever le voile sur les dynamiques profondes du capitalisme, rendre intelligible un monde que les économistes généralement ne nous rendent pas intelligible, et ses cours étaient magistraux au vrai sens du terme, en ce sens que tous ceux qui ont suivi ses cours, eh bien, avait l'impression de sortir plus intelligent et de sortir en comprenant mieux le monde qui les entourait et en ayant quelques idées de pistes pour l'améliorer.
Et c'est du reste ce qui ressort dans de nombreux hommages qui lui ont été rendus ces derniers jours. On avait le droit de ne pas être d'accord avec Michel Aglietta, mais quoi qu'il en soit, le dialogue, la communication avec lui faisait qu'on ressortait toujours plus intelligent. C'est ce qui est beaucoup ressorti et ce qui est visiblement une de ses caractéristiques. Natacha Valla, vous êtes doyenne de l'école du management et de l'innovation de Sciences Po Paris, ancienne directrice générale adjointe chargée de la politique monétaire à la Banque Centrale Européenne. Vous avez co-rédigé avec Michel Aglietta un ouvrage intitulé « Le futur de la monnaie » paru aux éditions Odile Jacob. C'était en 2021. Quand et à quelle occasion avez-vous fait la connaissance de Michel Aglietta ?
Moi, j'ai rencontré Michel Aglietta et André Orléans en classe préparatoire. J'étais en Hippocagne à l'époque. Et ça a été une vraie révélation, une révélation au sens où son analyse de la monnaie, son positionnement de la monnaie comme institution avec un prisme ethnologique, anthropologique, politique, qui enrichissait toute vision qu'on pouvait avoir en tant qu'économiste, simple économiste, j'ai envie de dire. Et cette impulsion-là, pour moi, ça a été, je pense pouvoir dire que c'est la raison pour laquelle je suis devenue banquière centrale par la suite. J'ai fait un doctorat d'économie à Florence en économie monétaire sur le comportement des banques centrales. Il est venu me rendre visite à Florence, je me souviens, il m'écrivait des lettres manuscrites, que j'ai toujours, bien sûr. Et puis on s'est suivis de loin en loin, avant de se rapprocher à nouveau, pendant ma carrière de banquière centrale, bien sûr, mais ensuite parce qu'on a décidé d'écrire un ouvrage universitaire ensemble sur la macroéconomie internationale, puisque Michel, c'est la monnaie, mais c'est aussi le système monétaire international, avec toutes les contributions qu'on lui connaît. Et on a terminé, effectivement, avec cet autre ouvrage qui est le futur de la monnaie, qui est en cours, en fait, et qu'on va finir de traduire, dans lequel on va injecter des exemples concernant les cryptos. Enfin, voilà, la pensée de Michel, elle existe, elle a été transmise avec une telle générosité, vous n'avez pas idée du nombre de témoignages qu'on a entendus, vus, lus ces derniers jours, de gens qui nous disent... Mais j'étais très proche de lui, il m'a donné tellement. Et chacun a eu ce sentiment-là dans sa propre expérience. Et je pense que ça, on a la fibre de quelqu'un qui aurait dû avoir le prix Nobel de son vivant. Peut-être qu'il l'aura un jour, dans quelques années.
Laurence Salom, vous avez...
Ah oui, je souscris à 100%. Je pense qu'il y a très, très peu d'économistes qui ont une pensée systémique telle que Michel l'avait. Et qui était capable en fait de faire des ponts entre les disciplines et pas dans un rapport, ce qui est assez souvent malheureusement le biais des économistes, dans un rapport un peu de domination de l'économie par rapport aux autres sciences sociales, mais non, vraiment être capable d'aller chercher dans l'histoire longue, dans Braudel, être capable d'aller chercher dans Zimmel ou dans René Girard des racines fondamentales pour sa compréhension notamment de la monnaie, enfin sa compréhension et celle d'André, hein, vraiment les deux sont...
vont de pair, voilà. Oui. Ce qu'on comprend à travers vos deux témoignages, c'est l'idée d'une transmission, d'un esprit de transmission, mais aussi une capacité à le faire extrêmement claire, une ouverture à tous, même des étudiants aussi ont énormément témoigné sur le fait qu'il acceptait énormément de collaboration. Et c'est d'ailleurs ce que vous dites, Laurence Salom, dans l'hommage que vous lui rendez dans le journal Le Monde. Vous dites de Michel Aglietta qu'il est un économiste souvent en collaboration, mais jamais en bande, c'est ce qu'il qualifie effectivement.
Tout à fait, Et Michel a collaboré avec des gens très très différents. Et ce qui est très symptomatique, c'est sa capacité d'essaimage. En fait, il était obsédé par la filiation intellectuelle, le fait de laisser une trace et la filiation intellectuelle. Et de ce point de vue, je pense qu'on peut lui dire aujourd'hui qu'il a réussi. Une manière de regarder ça, c'est de regarder ce que sont devenus ses doctorants et les gens qui ont travaillé avec lui. Eh bien, vous en avez évidemment à l'université, en France et à l'étranger, au CNRS, à l'EHESS, mais vous en avez également à la Banque des règlements internationaux, à la Banque de France, à la Commission européenne, à l'AFD, au FMI. Enfin, je veux dire, et dans toutes ces institutions, d'une certaine manière, sa pensée infuse, parce que quand vous avez été formé par Aglietta, vous ne pensez pas à l'économie de la même manière.
Et ce que j'ajouterais, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit, et j'ajouterais même qu'il n'était pas sectaire, c'est-à-dire qu'il acceptait de travailler avec des banques, avec des compagnies d'assurance. Il a nourri des réflexions qui étaient en articulation directe avec le business, avec les banques. Et porter cette vision critique sur l'expression du capitalisme tel qu'on l'a vécu dans sa forme anglo-saxonne, au cœur même des institutions qui le portent et le font exister. Ça, c'est d'une puissance extraordinaire et il était respecté dans cette démarche. Donc effectivement,
tout à fait. On,
il a des élèves qui aujourd'hui font de magnifiques carrières dans les institutions internationales, bien sûr dans le milieu académique, mais aussi dans le milieu de la banque et de la finance.
Et cela en dit très long aussi sur la conception qu'il avait de l'économie aussi comme outil de ce à quoi elle devait servir et cette vision plus politique qu'on a évoquée, une vision qui ne vient pas de nulle part, qui est très liée aussi à son parcours, un parcours sur lequel il revenait au micro de Pierre Tullier dans l'émission Science au pluriel, enregistrée en janvier 1982 et diffusée sur France Culture.
J'ai, dans le cadre de la planification, participé à l'élaboration d'un certain nombre de modèles, vu l'usage des instruments qui sont utilisés dans le cadre de la politique économique, planification étant finalement politique économique à un horizon plus lointain que la politique au jour le jour, ce qu'on appelle le moyen terme. Et c'est une réflexion sur la limite de ce genre d'instrument et les problèmes qu'il posait qui m'ont amené à rechercher des modes de représentation et une des interprétations de la croissance qui était finalement le grand problème et la grande réalité de cette époque, puis ensuite de la crise dans laquelle on est rentré au début des années 70 par une investigation plus théorique, effectivement.
Laurent Cernhomme, il nous faut là revenir sur les racines du parcours de Michel Aglietta, avec peut-être ce qui peut sembler être une contradiction apparente. Il est étudiant à l'école polytechnique, administrateur de l'INSEE à partir de 1965, avec un petit intermède de 2 ans à Harvard. On pourrait penser que c'est en technicien pur qu'il aborde l'économie, mais on le retrouve aussi auteur d'une thèse intitulée « Régulation du mode de production capitaliste dans la longue période », prenant l'exemple des États-Unis 1870-1970, donc plus d'un siècle d'études de cette histoire économique américaine. Est-ce qu'il y a là forcément une contradiction entre le côté très mécanicien, très théoricien, très mathématicien aussi, qui est sa première approche à l'économie, et cette importance énorme donnée à l'histoire ?
Alors en fait, je ne crois pas qu'il y ait une contradiction. Par contre, je pense qu'il y a eu une évolution. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, vous regardez Michel Aglietta, André Orléans un peu plus tard, mais Robert Boyer également, ce sont tous des polytechniciens et des grands penseurs de l'économie. Et puis ensuite, il y a eu une phase dans la période qu'on peut appeler de néolibéralisme où l'ingénieur économiste, c'est un pur technicien. Ce n'est plus un intellectuel. Et ce qui est très rassurant à mon sens de la position dans laquelle je suis, c'est-à-dire à diriger le master des institutions qui est, maintenant qui s'appelle Institution Économie Société, qui est l'endroit où tout l'institutionalisme français a enseigné, hein, les plus grands noms ont enseigné dans ce master, donc on perpétue ça. Eh bien, je vois revenir en fait des ingénieurs qui de nouveau ont cette appétence pour une vision systémique, pour faire des pont, alors avec les sciences sociales bien sûr, mais aussi maintenant à l'aune de la question écologique avec les sciences de la nature et de la vie. Et ça c'est très très rassurant, quoi, parce que ces grands économistes que nous a donné Polytechnique, il y a eu une période où, je ne dis pas que c'était des mauvais économistes, mais des économistes beaucoup plus resserrés sur la discipline. Et aujourd'hui on revoit ça à l'aune en fait de la crise écologique.
Natacha Valla, cette crise écologique est effectivement une façon de légitimer, de donner toute son importance, toute sa valeur aussi à ce travail-là, qui prend en compte une très grande variété de disciplines et de leur donner un poids égal, tout en parlant du point de vue de l'économiste. Ça reste la valeur essentielle du travail de Michel Aglietta.
Ça a été sur la fin plutôt, ce focus vraiment qui était devenu obsessionnel, mais comme on le connaît, tellement passionné dans ses initiatives, sur le rôle, la responsabilité du système économique et financier qu'est le capitalisme, pour rendre l'existence humaine et la pérennité de la planète assuré. Et ça, c'était, il a mis au service cette technicité qu'il maîtrisait parfaitement. Il y a eu un post sur LinkedIn de Jean Boissineau qui le connaissait très bien et qui, j'ai trouvé que c'était très, très bien dit, parce qu'il a dit, il maîtrisait tellement bien les mathématiques, et c'est de l'ironie vis-à-vis de nombreux collègues qui se targuent de, mais bon, bref, je rentre pas dans cette polémique, mais pour lui, c'était simplement un outil et il n'avait pas besoin de se définir et de définir sa légitimité à travers la maîtrise de ses outils. Ce qui ne l'empêchait pas d'avoir ses grands ouvrages sont des grands ouvrages de pensée, mais il avait aussi, lui, le modèle Mésange n'avait pas de, de secret pour lui. Il connaissait très bien toutes les méthodes économétriques. Il était capable de mettre le doigt sur le, l'erreur technique s'il y en avait une. Donc c'était vraiment une aisance dont il ne s'est jamais vanté. C'est-à-dire que pour lui, c'était une condition sine qua non. Il avait des convictions tellement authentiques. On en a très peu parlé, mais sa conviction par rapport au rôle des femmes dans l'économie.
Tout à fait.
Il était tellement vrai dans cette façon d'exprimer qu'il fallait des femmes pour faire de la diversité, parce que c'est de cette diversité qu'allait venir la croissance et le bien-être et le bien commun. Que voilà, et toutes ces choses-là chez lui, j'allais dire, c'était presque enfantin. Et donc très, ça emportait d'une certaine manière.
Laurence Hélène, c'est cette sincérité justement dans les sujets abordés, dans les choix de thèmes aussi, qui visiblement s'organisait sous forme d'obsession aussi, sur cette idée de s'engager à fond aussi. Et c'est ça qui motivait les travaux aussi de Michel Aguiéta.
Bien sûr, tout à fait. C'est des travaux. Il fallait toujours que ça ait du sens. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup des gens qui ont été travailler avec lui et des doctorants qui l'ont choisi, parce qu'en fait, contrairement à ce que pensent certains, ce sont les doctorants qui nous choisissent, c'est pas le contraire en réalité. Ils l'ont fait parce qu'ils étaient en quête de sens. Ils étaient en quête de compréhension du monde. Et Michel, en fait, c'était, quand vous regardez les propositions, parce que c'était un économiste aussi très policy, qui voulait changer le monde et qui essayait de penser des outils, etc. C'était toujours pour un monde meilleur, que ce soit pour maîtriser l'instabilité financière et pour avoir un monde plus sûr d'un point de vue financier, une finance qui finance vraiment l'économie, mais que ce soit dans la période la plus récente, les travaux qu'il a fait avec Étienne Espagne, qui sont magistraux, hein, et où on voit à quel point c'est un intellectuel, c'est qu'il a été capable dans ses derniers travaux, où en fait ce qu'il voulait, c'était refonder la théorie de la régulation à l'ère de l'anthropocène, c'est-à-dire réorganiser la théorie de la... Il a été capable d'avoir une vision critique sur sa propre approche du fordisme, c'est-à-dire sur la théorie qu'il a fondée et sur l'analyse qu'on avait du fordisme avant d'avoir cette pleine conscience de la crise écologique qu'on vivait. Et ça, si vous voulez, cette plasticité, cette capacité même à remettre d'une certaine manière en cause ses propres analyses, c'est juste la trace d'un immense intellectuel.
Et puis Laurence Hélène, cela implique aussi d'assumer un positionnement politique et donc aussi de repenser le rôle même de l'économiste en tant que conseiller
tout
du prince.
Fait.
Ça aussi, c'est un rôle
de Ça n'a souvent pas été compris, ça. C'est-à-dire, je pense que ça lui a été reproché par certains économistes puristes pensant qu'on se salit les mains en allant, je ne sais pas, travailler pour un régulateur ou travailler pour une banque centrale. Il a été au CAE, il a été au Conseil des finances publiques, il a été au CEPI pendant, je ne sais pas, plus de 40 ans, je crois.
Enfin, jusqu'à la fin.
C'est jusqu'à la fin et il était au début. Enfin, mais il ne voyait pas du tout les choses comme ça. Il avait compris que pour changer le monde, pour avoir un peu d'influence, ben on peut pas rester dans sa tour d'ivoire, quoi. Il faut aller, pas se salir les mains, mais aller confronter les idées au cœur même de là où ça se passe, quoi.
Alors justement, à ce sujet, je voudrais vous faire entendre un dernier extrait, un dernier moment où l'on entend, et là c'est encore en 1982, la voix de Michel Aguiéta qui envoyait aussi un message et une sorte d'alerte.
On est passé d'une économie politique au sens d'une discipline qui étudie théoriquement le problème des rapports entre les différents groupes sociaux considérés en termes économiques, qui était ce qui s'était fait au 19e siècle et début du 20e, on a passé d'une économie politique à une politique économique. C'est-à-dire qu'il y a, je dirais, une détermination extrêmement forte, une polarisation extrêmement forte de la demande par les institutions, et notamment par les institutions d'État, qui, avec tout ce qui est nécessaire pour régler l'intervention de l'État dans l'économie, polarise trop l'attention des économistes sur une partie, en quelque sorte, instrumentale de la discipline. D'autre part, il y a des demandes de plus en plus importantes de gestion qui pénètrent fortement la discipline, demandes de gestion par l'intermédiaire des grandes firmes. Le fait que les institutions deviennent plus complexes, plus grandes, entraîne des demandes de type instrumental. Donc le danger, c'est qu'il y ait une trop grande instrumentation, n'est-ce pas, de l'économie, en faire une discipline annexe de stratégie politique et plus assez de réflexion de type socio-historique des phénomènes économiques.
Natacha Valla, Michel Aguetta avait raison d'alerter sur ce risque d'instrumentalisation de l'économie réduite à une discipline annexe, quelque chose dont on pense en second, voire en troisième lieu.
Eh bien, complètement, et ça a trait à cette technicité qui prend le dessus sur le sens et le sens de la question qui est formulée, à laquelle on veut se donner les moyens de répondre. On le vit encore aujourd'hui, tous les jours, dans les banques centrales, au FMI, quel modèle, comment, c'est tout à fait... Là, ce qu'on vient d'entendre, ça a été prononcé dans les années 80, ça aurait pu être prononcé hier, et ça a tout son sens. Ça peut avoir des conséquences très concrètes sur la façon dont les institutions, qu'elles soient internationales ou du secteur privé, utilisent comme instrument, de façon utile, cette pensée. Mais il faut surtout pas oublier au service de quoi cette pensée a été formulée.
Eh bien, un immense merci à toutes les deux, Natacha Valla et Laurence Cialom, d'avoir partagé avec nous vos souvenirs et votre connaissance des travaux et du parcours de Michel Aglietta et de ses travaux. Dans quelques instants, place à notre portrait de l'écho consacré aujourd'hui à Jean-Baptiste Gaudin. On part donc au 19e siècle avec la 9e symphonie d'Antonin Dvorak de 1993. En ce 1er mai, c'est une autre fête du travail que nous évoquons aujourd'hui, celle qui s'est tenue pour la première fois au Familistère de Guise le 2 juin 1867.
Les fameuses statues, mais ça c'était... Oui, ça marque beaucoup parce que c'était spectaculaire, qu'il y avait énormément de monde et qu'on avait l'impression dans ces fêtes-là qu'il y avait un resserrement de toutes les... Je dis pas de toutes les classes, mais enfin de toutes les personnes qui étaient là. On sentait réellement familistérien.
On se sentait réellement familistérien, c'est le fondateur de ce lieu hors norme, constitué de 3 pavillons de briques nichés dans une boucle de l'Oise, qui a décidé de la tenue de l'événement. Quelle a été, mes amis, la pensée qui m'a fait instituer cette fête? Ce n'est pas seulement celle de vous donner des moyens de vous distraire, mais surtout celle de rendre au travail son véritable caractère, de le relever de son injuste abaissement et de chercher à faire comprendre qu'il est le moyen du progrès, la mission qui, sur Terre, élève l'homme au-dessus de tous les autres êtres de la création. Ces mots résument tout un pan de la pensée et de l'œuvre de Jean-Baptiste André Gaudin, né en 1817 et mort quelques années plus tard, à la toute fin du 19e siècle, pionnier de l'économie sociale qui doit, selon lui, prévaloir sur l'économie politique, science de l'égoïsme, comme il le disait lui-même. Gaudin a incarné un certain idéal du monde du travail et a tenté de concilier le fait d'être capitaine d'industrie d'un côté et défenseur d'un socialisme qui se préoccupe du bien-être des ouvriers de l'autre, une pensée qui s'incarne à travers un lieu, le fameux Familistère de Guise, dont Gaudin entreprend la construction en 1859 et qui se maintient au fil des décennies, bien après sa mort, jusqu'en 1970, où l'entreprise est rachetée et les logements revendus. Mais en plus d'un siècle, l'entreprise et la pensée de Gaudin ont marqué les esprits. Et c'est donc à cet homme que nous consacrons notre portrait du jour. Michel Lallemand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et professeur titulaire de la chaire d'analyse sociologique du travail, de l'emploi et des organisations du Conservatoire national des arts et métiers, et membre du LIS CNRS et auteur d'un vaste et très complet ouvrage consacré à Jean-Baptiste Gaudin intitulé « Le travail de l'utopie, Jean-Baptiste Gaudin et le familistère de Guise » paru aux éditions des Belles Lettres il y a quelques années de cela, en 2009. Alors Michel Lallemand, lorsqu'on commence à s'intéresser à Jean-Baptiste Gaudin, et j'ai déjà un peu commencé à l'énoncer, il y a forcément un paradoxe qui apparaît de façon très spontanée, on va dire, mais vous allez nous dire ce qu'il en est. Il y a ce premier paradoxe et qui est peut-être celui pour lequel il est le plus connu. On a d'un côté ce chef d'entreprise prospère, capitaine d'industrie, donc une figure de patron, tout simplement. Et de l'autre, on a le fondateur de l'Association du Capital et du Travail, structure juridique originale destinée à offrir aux salariés la possibilité d'accéder à la propriété capitaliste en 1880. Est-ce qu'il faut voir là une contradiction? Est-ce que tout l'apport, toute l'originalité de Gaudin n'est pas justement d'avoir réussi à concilier ces deux aspects?
En fait, là, le paradoxe s'évanouit assez vite si on a souvenir qu'il y a eu ce que Christian Topalov appelait une nébuleuse réformatrice qui, au XIXe siècle, a rassemblé toute une série de figures sociales, non pas simplement des syndicalistes, mais également des chefs d'industrie comme Godin, qui, et puis des réformateurs qui travaillaient dans le giron de l'État, qui ont tenté donc de résoudre les problèmes qui se sont posés à ce moment-là et qui prenaient la forme très concrète de pauvreté, de mal logement, d'insalubrité, d'alcoolisme, et on pourrait rajouter même aussi d'instabilité familiale, ce qui pour les classes bourgeoises était un signe de dérèglement social. Et Godin faisait partie de cette nébuleuse-là. Le paradoxe s'évanouit d'autant plus que lui-même ne vient pas des classes bourgeoises. Hein. C'est quelqu'un qui vient vraiment de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les classes populaires. Son père était un petit serrurier qui travaillait sur un mode quasiment artisanal. Lui-même a vécu dans une relative misère étant gamin.
Oui, vous décrivez très bien dans votre ouais. ouvrage qui est cassé.
Merci.
Et on le comprend que c'est vraiment la classe laborieuse. Hein, qui
exactement. Et donc il quitte en raison de ça très tôt le système scolaire. Mais après, il a un appétit de savoir qui est extrêmement étonnante. Lorsqu'on travaille dans les archives, comme je l'ai fait pour essayer de comprendre le personnage, on s'aperçoit qu'il avait mille vies. C'est-à-dire que non seulement il a fait œuvre de capitaine d'industrie pour ériger le familistère de Guise, diriger son entreprise qui a eu une importance d'ordre mondial, hein, du point de vue des marchés sur lesquels il était situé. Et par ailleurs, c'était un intellectuel. C'est-à-dire qu'il lisait, il écrivait, il a lu. Dans les archives, on trouve au moins des traces, des notes qu'il a prises sur les deux premières critiques de Kant. Donc pour quelqu'un qui est sorti du système scolaire à 11 ans, c'est quand même pas rien. Donc à la fois une responsabilité en tant que capitaine d'industrie, mais en même temps une responsabilité qui est ancrée dans un substrat social qui donne sens à cet investissement.
Et puis il y a un deuxième paradoxe que je voudrais aborder d'emblée, parce que c'est un terme qui va beaucoup revenir au cours de cette émission, c'est celui d'utopie. Et là aussi on pourrait se dire, qui dit utopie dit absence de concrétisation possible. Or, Godin a fait précisément l'inverse, notamment à travers son œuvre de bâtisseur, on peut le dire, à travers le familistère, ce fameux palais social. Est-ce que là encore, il faut voir une contradiction? Est-ce que ça ne nous raconte pas quelque chose, au contraire, de la façon dont Godin envisageait ce terme même d'utopie?
La notion d'utopie, comme tous les concepts, c'est en tout cas ce que nous a appris Kozelek, hein, le grand historien allemand de l'histoire conceptuelle, pour en saisir la portée, il faut en faire leur histoire. Et la notion d'utopie au sens de mort, a évolué, et au 19e siècle, il y a une volonté qui aujourd'hui s'est encore accélérée, c'est de faire de l'utopie quelque chose de plus en plus concret, de manière à transformer le monde ici et maintenant. Et c'est pour ça que Fourier, dont s'est inspiré largement Jean-Baptiste André Godin, ne revendiquait pas le terme d'utopie. C'est-à-dire, non, moi je suis pas un utopiste, les utopies sont des brumes nuageuses, métaphysiques, etc. Moi je veux changer le monde ici et maintenant. Et de la même manière, Godin, qui s'est inspiré donc de Fourier, qui était membre de l'école sociétaire, donc l'école des fouriéristes, voulait transformer les choses de façon très concrète et les plus rapides. Donc il y a une inspiration qu'on pourrait qualifier d'utopiste au sens qu'il y a cette volonté de transformer le système, mais il s'agit de le faire ici et maintenant.
Et puis il faut là encore revenir sur son parcours biographique pour comprendre d'où vient cette idée de vouloir changer les choses aussi. Nous l'avons dit très tôt, il est hors du système scolaire à l'âge de 11 ans. Il va travailler aux côtés de son père, nous l'avons dit, et puis aux côtés de son oncle en 1835 à Crécy-en-Brie. Il part ensuite à Bordeaux rejoindre le fils de cet oncle, donc son cousin forcément, qui est aussi serrurier et forgeron. En octobre 1935, il part avec le jeune frère de ce cousin, qui est donc toujours son cousin, et il va faire le tour de France des ouvriers compagnons. C'est à ce moment-là, Michel Lallemand, au début de sa vingtaine finalement, que Godin se penche sur les questions de réforme sociale.
Il est déjà à l'occasion de ce parcours, Tour de France des Compagnons, ce qui se faisait, qui était assez usuel pour toute une série de personnes qui voulaient se forger une identité professionnelle. Il est frappé par la misère ouvrière. Donc il la vit lui-même, hein, et déjà il en vient de toutes les manières, mais il prend conscience du caractère systémique de ce problème, donc ce qu'on a appelé la question sociale. Et de ce fait, il est comme ce que on a appelé les sublimes, ces ouvriers ouvriers qui réfléchissent sur la façon de donner sens à la condition ouvrière et aux moyens de la transformer. Et lorsque Godin fait son tour de France avec son cousin Moret, disons il y a deux grands systèmes intellectuels d'inspiration socialiste qui sont mis en discussion. Le premier, c'est celui d'Étienne Cabé, avec lequel d'ailleurs Godin aura l'occasion d'échanger, qui est l'auteur en 1840 d'une très belle utopie qui s'appelle Voyage en Icarie, et qui est une proposition d'utopie extrêmement égalitaire, qui va surtout connaître un certain succès auprès des classes laborieuses. Parce que quand on n'a rien, partager tout, c'est une utopie qui s'impose quasiment presque naturellement. Et puis il y a un deuxième modèle utopique qui se dessine à ce moment-là, qui est le fait de Charles Fourier, que Godin n'aura pas eu l'occasion de connaître, puisque Fourier décède en 1837, alors que, comme vous l'avez dit, Godin démarre son tour de France en 35. Mais Godin va progressivement... En fait, il prend connaissance du système de Fourier en 1842 exactement, mais il a déjà une idée de tout ce qui se trame autour des idées socialistes de ce moment-là. Et étant lui-même dans un parcours d'entrepreneur, en fait, il va donner plutôt son choix en faveur de l'utopie fourriériste qui est, elle, davantage ouverte à des formes de méritocratie sociale par opposition à l'égalitarisme de Cabé.
Et parce qu'il faut bien le préciser, il marchait sur ses deux jambes, à la fois la construction intellectuelle de Godin, mais aussi son parcours d'entrepreneur, de patron également. Vous avez cité la date de 1837, date du décès de Fourier. C'est aussi la date à laquelle Godin retourne à l'atelier familial. Quelques années plus tard, en 1840, il dépose un brevet pour la production d'un poêle à charbon en fonte de fer et il s'installe à son compte, grâce tout de même, il faut le préciser parce qu'on a beaucoup mentionné la classe laborieuse de laquelle il est issu, mais grâce quand même à un pécule paternel versé, je crois, à l'occasion de son mariage, de son premier mariage,
oui.
Ce qui bon, est tout de même un fonds appréciable. Godin continue, il s'ouvre à des idées, on va dire, plus socialistes, on va revenir sur ce terme, mais il continue à porter, il a foi aussi en son modèle d'affaires, il a foi aussi en son entreprise, tout simplement.
C'est quelqu'un qui avait un sens pragmatique extrêmement aiguisé, et une de ses caractéristiques, il y en a plusieurs, mais une des premières, c'était un sens de l'innovation. C'est-à-dire qu'il a commencé à se lancer sur un marché avec quelques ouvriers autour de lui, avec une idée très très simple, c'est que pour pouvoir améliorer les fourneaux, ce qu'on a appelé en fait les fourneaux Godin et qu'on continue d'appeler comme ça, il fallait transformer le matériau avec lequel on les fabriquait. Donc auparavant on utilisait du fer et lui va utiliser de la fonte, ce qui va complètement transformer le rendement calorique de l'appareil et en faire un vrai succès. Et à cela, il faut ajouter cette idée que Godin avait compris que la concurrence économique ne se joue pas simplement par les prix, mais ça se joue aussi par le biais de la qualité des produits. Et donc très tôt, il a eu le sentiment que avoir un souci esthétique dans la production des biens mis sur le marché, ça pouvait
également
faire la différence. Et de fait, ça l'a fait, puisque lorsqu'on regarde les prix de ses principaux concurrents et les fourneaux que lui vendait, on s'aperçoit que, grosso modo, les coûts de production étaient un peu près similaires. Lui rajoutait quand même des éléments, notamment pour émailler les fourneaux, ce qui faisait des produits de très haute qualité, et ce qui lui a permis, en fait, d'être bon et de gagner donc des parts de marché sur ce marché singulier.
Michel Allemand, on pourrait croire qu'il s'agit déjà là d'une exception, quelque part quelqu'un parti de quasiment rien pour arriver à être chef d'industrie, on va le voir, une industrie particulièrement florissante. Dans quelle mesure est-ce vraiment le cas à cette époque-là, ce milieu du 19e siècle, ou est-ce que c'est celui d'un parcours d'un enfant de ce siècle-là? Est-ce que c'est arrivé à d'autres que lui d'avoir cette ascension assez fulgurante?
C'est quand même un parcours extrêmement improbable. Elle l'est d'autant plus que, venant donc du monde populaire, il a réussi à rentrer dans les réseaux fourriéristes en prenant langue avec Considérant et avec tous les disciples de Charles Fourier. Et il a senti très vite quand même une différence sociale marquante, y compris dans ce milieu socialiste. Puisque Considérant, comme beaucoup d'autres dans le monde fourriériste, étaient des gens qui avaient fait des études, et notamment c'était des polytechniciens. Et au moment où ces polytechniciens et Considérant en tête tentent de mettre en musique la théorie de Fourier, notamment en mettant en place le premier phalanstère fouriériste aux États-Unis d'inspiration française, Réunion, à partir de 53, ça va être l'échec. Et Godin y croyait pourtant, il a mis le tiers de sa fortune dans l'affaire, il devait aller sur place pour s'occuper de la gestion de l'affaire, et il n'a pas été. Mais une des raisons de l'échec de Réunion, c'est que précisément l'expérience tout à fait pragmatique que Godin a acquise, en tant que chef d'entreprise, n'était pas dans les mains de ces fouriéristes qui, eux, avaient encore la tête dans les brumes métaphysiques de l'utopie fouriériste.
Et on parle bien là de fouriériste, non pas de Fourier lui-même, puisqu'on le rappelle. Oui, oui. On le rappelle, il est décédé quelques années avant que Godin tombe véritablement dans ces cercles-là, puisqu'il le découvre en 1842 dans le journal C'est local, ça, je crois, exactement. Le Guetteur de Saint-Quentin, pour les archives. Il s'abonne de fait ensuite à la Phalange. En 1843, soit l'année qui suit, cette découverte de Fourier, Godin adhère à l'école sociétaire, vous l'avez mentionné, Michel Lallemand. Quelle est cette école sociétaire? Très concrètement, qu'est-ce qu'on y fait? Quel est ce cercle-là? Et quelle place y trouve Godin? On l'a dit, c'est compliqué dans un premier temps, mais quelle est la vision de cette école sociétaire?
L'école sociétaire reprend, je dirais, une partie de l'héritage intellectuel de Fourier. Ce sont pour l'essentiel, Bernard Desmars l'a bien montré dans un bel ouvrage sur les militants de l'utopie, plutôt des hommes de classe moyenne engagés dans des fonctions de type profession libérale, chef d'entreprise, notaire, pharmacien, notable de manière très 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 générale, et qui ont été séduits par l'idée qu'on peut transformer le monde par le bas, donc avec des expérimentations locales, ce qui correspondait chez Fourier à un modèle d'organisation économique fondé sur les phalanstères, donc le manoir de la phalange. Ça, c'est le principe élémentaire. Ensuite, Fourier a légué à toute cette école sociétaire une série de réflexions, et l'une des plus importantes sur le plan économique, c'était le secret de la répartition du revenu. Fourier estimait qu'il y avait trois facteurs de production qui rentraient donc dans le processus économique au niveau de l'entreprise, le capital, le travail et le talent. Fourier expliquait, alors il a un peu varié en réalité, mais que le travail devait recevoir la moitié du revenu, le capital donc les deux sixièmes et le talent un sixième. Et cette recette méritocratique, puisque le talent était censé récompenser le talent des individus, faisait partie aussi de la façon de voir et d'agir économiquement de cette école sociétaire.
Et puis on voit là avec cette introduction du talent entre les deux pôles que l'on connaît peut-être bien davantage, à savoir le travail et le capital. C'est aussi ce qui permet de différencier cette théorie-là de la théorie marxiste. Alors on pourrait dire que Godin et Marx sont quasiment contemporains à une année près à chaque fois. Pour autant, clairement, Jean-Baptiste Godin ne s'inspire pas de Marx. On n'est même pas sûr qu'il en ait été le lecteur. Comment expliquer cette distanciation vis-à-vis des théories marxistes?
Alors il y avait une chose dont Godin avait horreur, c'était le conflit. Et donc Marx est le théoricien du conflit par excellence. Et c'est vrai que Marx est très très peu présent dans ses écrits, dans ses références. Marx était quand même fondamentalement un théoricien de la macroéconomie ou de la macro-sociologie. Godin regarde avant tout les choses par le bas, avec cette idée que c'est en transformant d'abord les choses ici et maintenant par le bas, et ensuite en étendant par effet de levier les innovations qu'on a pu promouvoir, que le système va pouvoir changer. Et vous savez que Marx a eu un rapport assez ambigu avec les utopies. Disons que Marx pensait que Fourier était quelqu'un de génial, hein, contrairement à ce qu'on a souvent dit. Dans les années 1840, et notamment dans la Sainte Famille, dans l'idéologie allemande, Marx reconnaît un rapport quasiment laudatif avec tous les utopistes. Il connaissait très bien toutes les expériences similaires à celles du phalanstère de Guise en France, et aux États-Unis. Et puis, à partir de 1946, il change son fusil d'épaule, et pour des raisons politiques, eh bien, il va dévaloriser la geste utopique, notamment à l'occasion de la rédaction du manifeste du Parti communiste, dont on connaît la classification, qui n'est pas en faveur des utopistes.
Et on va revenir de toute façon sur les critiques qui n'émanent pas seulement de Marx et Engels, mais les critiques qui ont de fait été adressées à ces modèles. Une question se pose, Michel Lallemand, c'est qu'on le comprend à travers ce que vous venez de nous expliquer, que c'est essentiellement autour de la question du logement, à travers les phalanstères puis le familistère, on y vient, que se pose la question aussi de la condition ouvrière. Pendant ce temps-là, il faut quand même préciser qu'entre 1843 et 1846, Gaudin continue d'exploiter son affaire. Il continue à déposer des brevets. En 46, il emploie une trentaine d'ouvriers. En 47, c'est désormais 50 ouvriers qui sont sous ses ordres. 190 en 1849. Or, 1849, c'est aussi l'année où Victor Hugo prononce son discours intitulé « Détruire la misère » devant l'Assemblée nationale. C'était le 9 juillet de cette année-là.
Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde. La souffrance est une loi divine. Mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Remarquez-le bien, messieurs, je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire, je dis détruire. La misère est une maladie du corps social comme la lèpre était une maladie du corps humain. La misère peut disparaître comme la lèpre a disparu. Il y a dans Paris, dans ces faubourgs de Paris que le vent de l'émeute soulevait naguère si aisément, il y a des rues, des maisons, des cloaques où des familles entières vivent pêle-mêle, hommes, femmes, jeunes filles, enfants n'ayant pour lit, n'ayant pour couverture, j'ai presque dit pour vêtements, que des monceaux infects de chiffons en fermentation, ramassés dans la fange du coin des bornes, espèce de fumier des villes où des créatures s'enfouissent toutes vivantes pour échapper au froid de l'hiver. Voilà un fait. En voulez-vous d'autres ? Le mois passé, pendant la recrudescence du choléra, on a trouvé une mère et ses quatre enfants qui cherchaient leur nourriture dans les débris immondes et pestilentiels des charniers de Montfaucon. Eh bien, messieurs, je dis que ce sont là des choses qui ne doivent pas être. Je dis que la société doit dépenser toute sa force, toute sa sollicitude, toute son intelligence, toute sa volonté pour que de telles choses ne soient pas.
Michel Lallemand, à cette époque-là, il faut remettre les choses dans leur contexte. À quoi ressemble la classe ouvrière ? Est-ce qu'il en existe seulement une ? Ces préoccupations très fortes qu'on entend là à travers ce discours de Victor Hugo concernent-elles une catégorie précisément identifiée de population ?
La classe ouvrière existe deux fois, pour utiliser une formule que Bourdieu aimait bien manier. Elle existe objectivement à partir de conditions telles que on vient de l'évoquer à travers ce témoignage qui est frappant. Et une des conditions, c'est la misère ouvrière qui se traduit par des problèmes d'hygiène, de mal logement, etc. Il n'est pas étonnant du coup que Gaudin se soit penché sur la question. Elle existe une deuxième fois dans la représentation des classes dominantes qui associe la classe ouvrière à une espèce de groupe nouveau, incontrôlé, qui entre de plein pied sur la scène de l'histoire et dont on ne sait pas ce qu'il faut en penser et dont on essaye de comprendre de quels moyens on peut disposer pour pouvoir mieux la contrôler. Et d'une certaine manière, Gaudin est dans cet entre-deux permanent. C'est-à-dire il veut solutionner la question sociale au nom d'une vraie empathie avec le monde ouvrier dont lui-même est issu. Et en même temps, il utilise toute une série de moyens visant à normer les comportements. Et le premier moyen que vous avez évoqué, c'est le logement. Alors la grande thèse, qui d'ailleurs résonne encore aujourd'hui de nos jours avec une singularité et une actualité étonnante, c'est-à-dire que ce n'est pas la croissance économique qui va pouvoir résoudre le problème social ou la question sociale. Ce sont, dit Gaudin, les équivalents de la richesse. Donc ça, c'est la thèse économique majeure.
C'est ça,
de Jean-Baptiste André Gaudin. Donc renonçons à vouloir enrichir les gens et allouons plutôt, et c'est la responsabilité notamment des classes dominantes, aux ouvriers, à leurs familles, les moyens de vivre dignement. Et le premier de tous ces moyens, c'est le logement. Mais ce n'est pas le seul. On va revenir peut-être, si vous le souhaitez, sur le logement, mais je voulais évoquer d'autres moyens que Gaudin va développer au sein du familistère. Le premier, c'est le savoir. Donc il intègre des classes, et notamment des classes mixtes au sein du familistère. Il met en place une formation pour les adultes, y compris le soir, de manière à permettre à chaque ouvrier, à chaque famille d'ouvriers, à chaque enfant de chaque famille, de pouvoir avoir accès à un savoir qui leur permette de s'élever dans la hiérarchie sociale. L'égalité entre les hommes et les femmes, c'est aussi un équivalent de la richesse. L'accès à un mode de consommation qui évite ce que Fourier aimait à désigner sous le terme de parasitisme, c'est-à-dire tous ces intermédiaires dans le commerce qui vont s'enrichir sur le dos des consommateurs et des producteurs. Voilà, donc Gaudin avait une vue très large de la façon de résoudre la question sociale à partir de cette expression équivalent de la richesse.
Et cette vue très large, elle va s'incarner dans un lieu, ce fameux familistère que vous venez d'évoquer. On pourrait avoir l'impression, à travers notre échange, Michel Lallemand, que Jean-Baptiste Gaudin est un homme d'expérimentation, un homme de tentative politique, mais par le bas. Il faut tout de même nuancer cette idée-là. Jean-Baptiste Gaudin a tenté aussi, avant d'en venir à ce terrain très précis, hein, de cette fameuse boucle de l'Oise, il a tenté d'incarner aussi un personnage politique. Il a tenté de faire de son socialisme quelque chose de représentatif. C'est notamment le cas lors des élections de 1848, alors qui se soldent pour un échec pour lui. Mais quelle vision du socialisme, il tente d'incarner, parce qu'on le comprend à travers ce que vous nous dites, ce n'est pas un héritage 100% pur non plus de Fourier. Comment il se positionne politiquement ?
Je pense que la meilleure façon de qualifier l'entreprise de Jean-Baptiste André Gaudin, c'est une formule qui est un peu perdue de cours aujourd'hui, mais qui était utilisée au 19e siècle, c'est celle de socialisme pratique. Et donc, il y a ce sentiment qu'il faut ancrer dans la réalité du monde et ne pas s'interdire de bricoler en permanence les expérimentations que l'on mène. Donc, c'est tout à l'opposé précisément de ce que l'on associe au modèle des utopies habituellement, qu'on se représente comme des schémas tirés au cordeau, intangibles, universel, figé dans le marbre de l'histoire, c'est exactement l'inverse. Gaudin avait un sens du pragmatisme. Si une chose ne marchait pas, il changeait son fusil d'épaule, etc. Et il a mis 20 ans hein, pour construire en fait l'intégralité du Familistère, oui, ce qui veut dire qu'il n'a pas appliqué le modèle du Phalanstère et appliqué d'un seul coup, sans réflexion. Il a pris le temps de faire évoluer les choses, et ça, c'est une marque de fabrique, je crois, de Gaudin, en plus de toute une série de convictions, par exemple, ses convictions pacifistes étaient extrêmement fortes. Ce qui nous renvoie au débat sur le conflit que nous avons eu tout à l'heure. Ses convictions féministes étaient également extrêmement fortes. Il a été un des premiers à mettre en place des commissions paritaires avec autant d'hommes que de femmes pour gérer le Familistère. Il pensait que les syndicats, aussi bien patronaux que d'ouvriers, avaient tout leur place dans les gestions du travail. Donc il y a toute une série de convictions qu'il a essayé de mettre en place avec plus ou moins de succès, il faut être honnête, mais qui disent bien ce que le socialisme pratique de Gaudin pouvait signifier.
Et puis vous le dites dans votre ouvrage aussi, Michel Lallemand, à partir de ces élections de 1848, sa réputation a été faite, alors un petit peu à Paris, mais surtout à l'échelle beaucoup plus locale, à Guise, où maintenant on l'identifie très clairement comme un patron socialiste, qui peut sembler être comme une anomalie sociale, mais ce qui n'en est pas forcément une, nous l'avons vu. En tout cas, on comprend que Jean-Baptiste Gaudin ne se contente pas de récupérer les idées de Fourier, il construit sa propre théorie, notamment avec ses équivalents de la richesse sur lesquels on va revenir. Il explique son positionnement de façon assez explicite dans une lettre adressée à Jean-Marie Fourier, alors à ne pas confondre, qui lui est avocat et membre actif du groupe des phalanstériens d'Algérie.
Monsieur et ami, vous m'aurez trouvé bien peu courtois de ne pas avoir répondu à votre amicale lettre du 29 novembre, sinon par l'envoi de la cuisinière qu'elle me demandait. Soyez assuré qu'il n'y a pas défaut de souvenirs ni d'attention pour vous, mais que des empêchements sérieux en ont seuls été la cause. Admirateur du génie de Fourier autant que qui que ce soit, je ne crois pas malgré cela à la décrépitude de la civilisation, à moins que nous n'appelions ainsi la transformation qui se prépare. Mais ce ne sera pas alors les phases de lente agonie qui la prédite. Je travaille avec ardeur, dans la limite de mes forces, à faire parler les faits sur les améliorations possibles dont l'habitation humaine est susceptible en faveur des masses. J'ai à cet effet fait construire un palais du travail dans lequel sont, depuis 1861, logées environ 100 familles, 400 personnes. La partie centrale de ce palais s'achève et pourra loger 500 personnes. C'est le premier fait sérieux qui s'accomplit en France avec le plus parfait silence et qui, je l'espère, prépare des études sérieuses pour l'avenir de la question sociale. Mais n'allez pas croire que j'en sois arrivé à la réalisation du règne de l'harmonie. Les âmes humaines incarnées sur notre globe en sont incapables. Je ne cherche qu'à prouver une chose, c'est qu'il est possible d'effacer la misère de notre société et d'appeler les masses à jouir d'un bien-être relatif qu'on leur a dénié jusqu'ici.
Si Charles Fourier avait déjà proposé de changer la ville, d'améliorer le sort des classes laborieuses à travers l'habitation, Gaudin se saisit à son tour de cette idée en y ajoutant sa conviction profonde. Il faut que la science mette les jouissances de la richesse à portée de tous. Il faut qu'elle réalise la réforme architecturale de l'habitation comme elle a réalisé celle de l'usine, de la manufacture, de la fabrique, des moyens de culture et des chemins de fer. Le progrès social et solidaire de ces progrès dans le travail et la réforme architecturale de l'habitation doit en être le couronnement par l'édification. modification du palais social. Ce palais social, Michel Lallemand, il faut le dire, c'est ce fameux Familistère. Alors, pour revenir sur cette entreprise architecturale, mais aussi sociale, philosophique aussi d'un certain point de vue, il faut comprendre déjà pourquoi cela s'appelle un Familistère et non pas un Phalanstère, ce qui est peut-être en ligne directe avec Charles Fourier. C'est la dimension familiale qui est essentielle pour Jean-Baptiste Gaudin.
Alors, Gaudin utilisait deux termes, celui de familistère qui est le terme officiel et qui marque la prévalence qu'accorde Gaudin à cette unité sociale élémentaire qui est la famille, ce qui fait qu'au familistère, à la différence par exemple d'autres communautés qui apparaîtront sur la scène de l'histoire ultérieurement, les familles habitaient ensemble. Hein, chaque famille avait son propre appartement, donc il y a cette croyance que l'unité élémentaire du social, c'est la famille, d'où le passage du phalanstère au familistère. Et Gaudin a utilisé un second terme dont on a entendu mention dans le document. Au tout début, il parlait de palais du travail, ce qui a été vite abandonné pour laisser la place à la notion de palais social. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est le terme de palais. Et dans ce que véhicule cette sémantique particulière, c'est de dire que le palais ne doit pas être réservé au roi. Et donc, on va penser la construction des lieux de vie, en l'occurrence le familistère, sur le modèle du palais de Versailles, de telle manière à ce que la classe ouvrière soit elle-même reine ou roi en son royaume. Et donc, il faut penser l'architecture du familistère sur cette base-là, avec notamment des rues-galeries qui étaient chères à Charles Fourier, avec toute une série de règles égalitaires, c'est-à-dire qu'il fallait autant de lumière pour les gens qui habitaient haut que les gens qui habitaient en bas. Et tout ça était innervé par un souci qui était le souci hygiénique. On a évoqué tout à l'heure l'importance des mauvaises conditions de vie de la classe ouvrière. Et au milieu du 19e siècle, il y a tout un mouvement hygiénique qui s'incarnait de multiples façons, par exemple par la production d'une belle utopie en Angleterre qui s'appelait IGIA, où on pensait un autre mode d'habitation gouverné par toute une série d'exigences sanitaires élémentaires. Et Gaudin est obsédé en permanence par le fait que le familistère doit être un lieu sain. C'est-à-dire, il faut de la lumière, il faut de l'eau, il faut que les gens soient en bonne santé. Gaudin notamment invente ce qu'il appelait la trappe à balayure, qui était le vide-ordure. Hein, donc c'est lui qui a inventé le vide-ordure. C'est quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup d'imagination. Il y a des tas d'autres. Par exemple, il s'était arrangé pour que l'eau chaude qui était utilisée dans les usines puisse redescendre en direction de la buanderie, de manière à pouvoir être recyclée au service du lavage du linge, etc. Donc on pourrait mentionner 1000 illustrations de ce type-là pour dire à quel point ce façonnage du mode de vie était à la fois porté par un souci de redonner une dignité au travail, mais dans les conditions de vie qui soient les meilleures pour les personnes qui habitaient là.
Et puis Michel Lallemand, c'est là où on en revient à ce point fondamental, d'où le fait de revenir dessus, mais de cette idée d'offrir des équivalents de la richesse dans ce familistère. Il y a aussi toute une série de services qui sont proposés. Il y a un économat, il y a en fait une mini-économie à l'intérieur de ce familistère. Il y a tout un système, y compris monétaire, qui se met en place. Je voudrais qu'on comprenne bien le lien entre ces services proposés et l'idée d'une rémunération, ou en tout cas de proposer un équivalent, encore une fois, de la richesse. Comment on peut faire ce lien? Est-ce que dans l'esprit de Gaudin, c'est vraiment ça? Je vous propose des services parce que c'est une façon de rémunérer quelque chose qui est difficilement rémunérable, à savoir votre talent, votre énergie aussi. C'est ça la logique?
Alors, une façon de qualifier la logique que vous évoquez est peut-être pas la meilleure, mais en tout cas, je trouve qu'elle est parlante. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, Gaudin a incarné la figure du paternalisme la plus achevée. On sait que le paternalisme au 19e siècle a pu prendre différents registres d'action, hein. Paternalisme matériel, on va offrir toute une série de services, de biens, etc. Au profit de ses ouvriers. Gaudin n'échappe pas à la règle, hein, puisque il offre des magasins, ce qui fait que, enfin, il met à disposition plutôt de ses ouvriers et de leurs familles des magasins dans lesquels on peut acheter aussi bien du pain, de la viande, des vêtements, des bijoux, etc. Donc la gamme est tout à fait complète pour justement éviter d'avoir à alimenter, hein, les parasites dont il était question tout à l'heure. Il souhaite prendre la responsabilité de l'éducation des enfants. Donc, il y a une volonté de prise en charge matérielle quasiment totale de la part de Gaudin. Mais c'est aussi un paternalisme moral, puisque Gaudin estime qu'en tant que patron, il a une forme de rôle, disons, de guide spirituel. Il ne se prive jamais, dans le magnifique théâtre du Familistère, de prendre la parole devant les ouvriers et leurs familles, de manière à leur dire comment il serait idéal de penser pour pouvoir améliorer la vie quotidienne, le monde social, etc. Et puis, dernière chose, Godin, on l'a un peu évoqué tout à l'heure également, était une forme de paternaliste politique, c'est-à-dire que il s'est engagé politiquement. Il a été maire de Guise, il a été au Conseil général, il a été député de 1871 à 1876, sans faire au demeurant de grandes étincelles à l'Assemblée nationale, mais avec cette idée qu'il représentait les intérêts du monde ouvrier qui était sous sa coupe.
On retrouve là cet échelon, on va dire, intermédiaire entre le macroéconomique qui ne l'intéresse pas nécessairement et ses expérimentations par le bas, très très locales. Pour bien comprendre aussi le rôle du patron tel que le conçoit Jean-Baptiste Godin, je vous propose d'écouter un témoignage, c'est celui d'une descendante d'ouvriers qui résidait au Familistère et diffusé dans le film Jean-Baptiste André Godin, l'homme qui réalisa son utopie de Bernard Bessa, sorti en 2005.
Je peux vous dire que le premier de ma famille, la première personne qui est venue, elle est arrivée en 1853. Dès l'époque de Monsieur Godin, ils sont déjà là et ils travaillent comme mouleurs, mais après on voit qu'ils sont fondeurs, émailleurs et même le premier est responsable de la fonderie. Donc ils ont monté un petit peu tous les échelons et donc ça fait au moins 3 ou 4 personnes de branche de ma famille qui sont originaires de Guise et même du Familistère depuis quelques années quand même. Et mon père a pu faire des études supérieures grâce au système Godin, puisqu'après 14 ans, on pouvait les aider s'ils avaient des compétences. Et là, mon père a fait l'école supérieure de commerce de Reims, l'école supérieure de commerce de Paris. Et il avait les études prises en charge complètement, ainsi que le trousseau. Et même, vous savez, dans ces grandes écoles, il y a des soirées gala. Et même l'habit de gala avait été pris en charge, si bien qu'on ne voyait pas son origine un peu modeste. Et c'est comme ça qu'il a pu gravir l'échelon social. Et donc... il est revenu ensuite travailler comme employé à l'usine et il a fini directeur.
On l'entend avec ce témoignage, Michel Lallemand. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'on comprend que l'héritage en fait, de Jean-Baptiste André Godin va au-delà de ne serait-ce que sa simple date de décès, mais il va au-delà de la simple idée de réunir ses ouvriers potentiellement au service de son usine. Il y a cette vision de la place de l'éducation qui est extrêmement importante, cette idée d'accompagner sur des générations, en fait, c'est ce qu'on entend là.
Alors, sur ce point, je crois qu'il faut rendre justice à la compagne, en tout cas la deuxième compagne de Godin, qui est malheureusement restée dans l'ombre, qui est Marie Moret, qui est donc la deuxième épouse de Jean-Baptiste André Godin, qu'il l'épouse assez tardivement, en 1886, 2 ans après sa mort, mais après un long procès avec sa première épouse, qui n'avait pas supporté en fait l'initiative du Familistère. Et Marie Moret s'est occupée pendant très longtemps du système éducatif au Familistère, avec toute une série d'innovations. Jean-Baptiste André Godin et Marie Moret étaient en relation avec Marie Pape Carpentier, qui est une fourriériste qui a inventé, dit-on, l'école maternelle en France, et qui était une des promotrices de toute une série d'innovations pédagogiques, si j'ose dire, avec l'idée c'est que l'apprentissage, c'est par le faire, et pas simplement par la voie d'abstraction très générale, telle que notre système scolaire continue de l'utiliser. Et donc, ce souci d'éducation était au cœur, effectivement, vous avez raison, du projet phalanstérien, avec une tension qu'on a tout parfois reproché à Godin sur la façon de faire vivre ensemble les familles dans le Familistère. Certains voyant une forme de prison de verre, Zola qui est venu au Familistère a fait ce reproche, je pense qu'il était pour partie infondé. D'autres voyant un lieu de liberté absolue, la réalité étant entre les deux, mais Godin en avait bien conscience, qui refusait de reproduire, vous savez, la fameuse cité Napoléon III, qui était une cité ouvrière à Paris, qui contrôlait au cordeau l'ensemble des comportements des gens qui habitaient, ou bien d'autres formes encore d'habitat, comme par exemple la cité Dreyfus à Mulhouse. Et donc le schéma familistérien est un entre-deux avec un choix de vie collective. Et c'est cela, à mon avis, qui est vraiment novateur, avec toutes les dimensions qu'on vient d'évoquer, à la fois productives, reproductives et éducatives.
Et il est vrai qu'Émile Zola a eu des mots assez durs dans les notes qu'il a prises pour préparer son roman Travail. Et puis, il y a eu toute une série d'autres critiques. Nous avons déjà évoqué les critiques, notamment qui émanent de Marx et Engels, qui voient aussi une forme de colonie destinée à l'exploitation des ouvriers. Il y a un autre héritage que laisse Godin, qui est peut-être un peu moins connu. C'est un héritage écrit. Ce n'est pas qu'un homme d'action, c'est aussi un homme qui se fait plus théoricien, ou en tout cas qui veut laisser une trace écrite. En 1871, il fait paraître son maître ouvrage « Solutions sociales ». En 1878, il fonde un journal « Le Devoir » qui se veut féministe, socialiste, anticlérical et qui paraît tous les dimanches. Est-ce que la pensée de Godin intéresse finalement Michel Lallemand? Qui lit ce fameux « Devoir » Qui se dit qu'il y a là un modèle peut-être à suivre?
Le Devoir est un journal extraordinaire puisque c'est le concentré de toutes les nouvelles nationales et internationales dans les domaines que vous avez évoqués, à la fois tout ce qui se fait dans le mouvement socialiste, mais aussi dans le mouvement féministe. Les anarchistes y ont droit d'écoute, alors même que les anarchistes étaient très critiques du modèle de Godin, etc. Donc Godin a laissé une trace probablement plus souterraine que véritablement formalisée, puisque Godin, encore une fois, n'a pas un parcours d'académique, ce n'est pas un universitaire, mais toute l'histoire de l'économie sociale en France serait incompréhensible sans avoir en tête le cas exemplaire qui a été l'expérimentation qui a été menée par Godin au fameux ministère de Guise.
Eh bien, merci infiniment Michel Lallemand d'être venu nous raconter le parcours intellectuel mais aussi architectural d'une certaine manière de Jean-Baptiste André Godin. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le Travail de l'Utopie, Godin et le fameux ministère de Guise. Toutes les références sont bien sûr à retrouver sur la page d'Entendez-vous l'écho et sur le site de France Culture où vous pouvez réécouter l'émission ainsi que sur l'application Radio France.